des idées culturelles, des conceptions culturelles qui peuvent un peu égarer nos réflexions et tordre notre conception de la parole de Dieu. Et nous devons en être conscients. La culture, et je crois que vous savez ceci, c'est quelque chose qui est énormément important. Nos vies de chaque jour, la façon dont nous vivons est formée par la culture. Donc, ce matin, nous avons mangé. Dans une certaine mesure, ce que nous avons mangé, comment nous avons mangé, quand nous avons mangé, et ainsi de suite, c'est façonné par la culture. Quand nous dormons, comment nous dormons, si c'est sur un lit, si c'est sur un tapis, si c'est autre chose, et ainsi de suite, c'est façonné par la culture. Les choses que nous mangeons, comment nous préparons ces choses, quand nous mangeons ces choses, la signification des repas. Parce que les repas ne sont pas seulement, disons, des éléments de manger, mais aussi d'autres éléments qui sont inclus dans cela. Donc la manière dont nous nous voyons nous-mêmes, nos entretiens, comment on regarde les autres, qui on va honorer, qui on ne va pas honorer, pourquoi on va honorer, ainsi de suite. Ce sont les cultures qui déterminent de telles choses. C'est pour ça qu'il y a des différences culturelles. Et que parfois, quand il y a des différentes cultures qui commencent à se mélanger, les uns ne comprennent pas bien les autres. Donc, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce n'est pas bon. On ne fait pas les choses de telle façon. Mais le problème, c'est un problème culturel. Il faut comprendre l'importance de la culture. Et surtout le fait que la culture, et à travers la culture, nous arrivons aux réponses aux questions les plus importantes de la vie. Donc, qui sommes-nous? En tant qu'êtres humains, que sommes-nous? Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Quelle sera notre destinée, notre avenir? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi est-ce que nous mourons? Et quel est le sens de la vie? Toutes ces questions, les réponses proviennent en grande mesure de la culture. Et des croyances enracinées dans les cultures. Maintenant, les cultures sont faites par des hommes et des femmes. Nous faisons nos cultures. La culture ne descend pas du ciel. Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains, comme êtres qui peuvent façonner la culture. Nous sommes des formateurs, les créateurs de culture. Et donc nous créons nos propres cultures en fonction de beaucoup de choses. Mais nous les créons et à travers les années, nous les transformons aussi inconsciemment. Personne ne dit, quand il se lève le matin, « Bon, aujourd'hui, je vais créer une culture. » Ce n'est pas comme ça. Ça se crée par d'innombrables décisions à travers toute la société. Et donc peu à peu, la culture change. Parfois, ça change parce qu'il y a des inventions technologiques, n'est-ce pas? Je suppose que dans cette salle, la majorité des personnes ont dans la poche un téléphone mobile. Je suppose que c'est comme ça. Ou même beaucoup de vous, vous avez ça dans la poche. Ça, c'est quelque chose qui est entré dans la culture et qui a changé la culture. Maintenant, personne ne nous a obligés d'utiliser les téléphones mobiles. C'est notre décision. Mais ça a effectué des changements dans la culture, dans la manière dont nous nous entretenons, donc nos coutumes et ainsi de suite. Maintenant, quand nous considérons ces choses, nous devons considérer aussi à ce propos que les hommes et les femmes qui façonnent les cultures sont les hommes et les femmes déchus. Nous sommes pécheurs. Et donc, tout ce que nous créons peut être en partie bon, mais aussi en partie mauvaise. Le péché entre dans tout ce qui nous concerne. Il n'y a pas de domaine de la vie où le péché n'entre pas. Il entre partout. Et donc, il entre aussi dans la culture. Et dans une certaine mesure, donc, toute culture est déchue. Pas seulement la culture de certaines sociétés, mais toute culture, ma culture, votre culture, toutes les cultures sont dans une certaine mesure perdus et donc déchus et impactés par le péché. Alors, quand nous considérons nos traditions, nos conceptions, ce que nous gagnons de nos cultures, les idées qui sont présentes et qui en quelque sorte alimentent nos pensées, nos réflexions. Nous devons reconnaître qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des éléments du péché dans nos conceptions, dans nos idées. Et donc, quand nous venons pour considérer une question telle que celle que nous considérons ce matin et pendant cette semaine, nous devons permettre à ce que la parole de Dieu puisse transformer nos conceptions. Parce que c'est Dieu qui juge là où la culture est bonne, là où la culture est mauvaise. C'est Dieu qui nous montre là où il nous faut nous repentir, où il nous faut changer nos conceptions et songer d'une autre manière. C'est Dieu qui détermine cela. Ce n'est pas qu'une culture va juger une autre culture. Non, toute culture est déchue. Et donc ce n'est pas une culture qui juge une autre culture. C'est la parole de Dieu qui nous juge tous et toutes nos cultures. Et donc, quand nous venons et nous discutons ceci, et nous avons des conceptions traditionnelles, des conceptions culturelles, nous soumettons ces idées sous l'évaluation, sous le jugement de la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse former, reformuler nos idées. Paul dit ceci en Romains 12, verset 2, quand il dit aux chrétiens, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est l'intelligence qui, en grande mesure, dirige nos pas dans la vie, la voie, les voies que nous allons suivre. Et donc, Paul dit, il faut que nos intelligences, en tant que chrétiens, soient renouvelées. Et ça se fait par l'œuvre de l'Esprit qui utilise la parole de Dieu, la parole que l'Esprit lui-même a écrite. L'Esprit utilise la parole pour nous transformer, pour transformer nos intelligences, pour que nous pensions d'une manière chrétienne, pour que nous pensions bibliquement, et donc d'une manière qui est saine et qui honore Dieu. Ça va? Donc c'est ça, donc, la manière, je crois, dont nous devons nous approcher de cette question. Maintenant, quand nous cherchons à réfléchir sur la guerre spirituelle, il est question de chercher à la comprendre dans le contexte de la Bible tout entière. Il n'est pas question de chercher un verset ici, un verset là, et donc de chercher à tirer certaines conclusions des textes d'une manière un peu isolée. C'est toute la Bible qui doit avoir influencé, transformé nos réflexions dans ce domaine et comme dans tout domaine, vraiment. Et donc, nous allons voir un peu passer dans la Bible pendant ces jours-ci. Et nous commençons avec la création, nous continuons à parler de la chute dont on a lu le texte ce matin. Mais d'abord, je veux parler brièvement de la création. Première chose, la création donc de Dieu. Dieu a commencé tout ce qui existe. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé tout ce qui existe. Il n'y a rien qui existe que Dieu n'a pas créé. Il a créé tout ce qui est visible, il a créé tout ce qui est invisible. Donc, le domaine naturel est visible, le domaine surnaturel est invisible. Dieu a tout créé. Tout lui appartient, c'est à lui. Il est le Seigneur de tout. Il est le roi. Il est le Dieu créateur. Et rien n'existe à part lui, à part ce qu'il a créé. Et donc, tout lui appartient. Tout comme si vous créez quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des menuisiers ici qui sont aptes à fabriquer des tables. Vous fabriquez une table, c'est votre table. Vous pouvez faire avec votre table ce que vous voulez faire avec votre table parce que vous l'avez créé, c'est à vous. Dieu a créé tout ce qui existe. Tout est à lui. Il est le Seigneur de tout ce qu'il a créé. Ça lui appartient. Et il règne sur tout. Dieu ne cesse jamais de régner sur sa création. Il est toujours maître de ce qu'il a créé. Il est vrai qu'il y a eu rébellion dans la création. Rébellion de Satan, rébellion aussi de l'humanité. Mais Dieu ne cesse jamais d'être le roi. Et la volonté de Dieu n'est jamais frustrée. Dieu n'est jamais vaincu. Dieu n'échoue jamais. Il n'est jamais vaincu. La volonté de Dieu s'accomplit toujours. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de moment quand Dieu est vaincu. Il n'y a pas de moment quand Dieu est frustré, quand Dieu est choqué, quand Dieu est surpris par quelque chose. Il n'y a pas de moment quand Dieu est dépassé. Il est maître de tout. Il est le maître, le roi souverain. Il faut que ça entre dans nos têtes. C'est, en quelque sorte, ça c'est la chose la plus importante que nous allons dire pendant la semaine. Parce que ça, c'est la réponse à nos craintes. Dieu est le Seigneur. Quand nous affirmons que Jésus est le Seigneur et que Dieu est le Seigneur, qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant, nous disons que tout est soumis à lui. Et si nous avons confiance à lui, et si nous croyons qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est Tout-Puissant, il n'y a rien à craindre. Parce qu'il est le roi, il est le maître, et il est notre Dieu. Qui s'est promis en nous par une alliance qui ne peut pas être violée. Et donc, jamais de panique auprès de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu gouverne sa création. Et donc, la Bible parle de la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est le fait que Dieu soutient tout ce qu'il a créé, mais aussi qu'il dirige tout ce qu'il a créé vers son but prédestiné. Parce que quand Dieu a fait la création, il a créé un univers dans lequel il y a le temps. Avec Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu est éternel. Sans de commencement, sans de fin. Il n'y a pas de déroulement de temps avec Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas de demain. Dieu ne se souvient pas de ce qui s'est passé hier. Il n'est pas dans ce domaine. Il est au-delà du temps. Mais il a créé un monde dans lequel il y a le temps. Et donc, dans ce monde, les choses se passent. Il y a des événements. Il y a des années. L'un suit l'autre. Et Dieu dirige les événements pour assurer l'accomplissement de son dessein. Et encore une fois, Dieu n'est jamais frustré dans ses intentions. Et donc l'apôtre Paul dit, Éphésiens 1, 11, nous n'avons pas du temps pour chercher tous ces versets, mais je vous donne les références pour que vous puissiez les chercher après. Éphèse 1, verset 11, Dieu opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Pas seulement certaines choses, pas seulement les bonnes choses. Dieu opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Dieu est en train de guider l'histoire de notre monde pour qu'il accomplisse son plan, son dessein dans l'histoire de notre monde. Et troisièmement, Dieu est bon, c'est la bonté de Dieu. Et donc tout ce que Dieu a créé, au commencement, il a créé bon. Au commencement, l'homme et la femme que Dieu a créé, Adam et Ève, de qui nous avons lu ce matin, il les a créés bons, sans péché, sans mauvais désir, sans mauvaise disposition et attitude. Bon, parfait, totalement bon. Et donc aussi, dans tout ce qu'il a créé, c'était bon. La création était une bonne création. Il n'y avait pas de deuil. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas de souffrance, de maladie. Il n'y avait pas de tremblement de terre, d'inondation, et ainsi de suite. Il a créé toutes choses bonnes. C'est essentiel de saisir ces choses au commencement. Ça, c'est donc la structure dans laquelle nous allons considérer la guerre spirituelle. Donc, la guerre spirituelle est la guerre de Dieu. L'Éternel est un guerrier, nous avons dit ça hier. Et donc, quand Israël a traversé la mer Rouge, et quand ils sont arrivés à l'autre côté, ils ont vu ce que Dieu a fait avec les Égyptiens, comment les Égyptiens sont tous morts et Pharaon était vaincu d'une manière totalement décisive. Ils ont acclamé le Seigneur par un cantique qu'ils ont chanté ensemble. Et au verset 3 de Genèse 15, ils ont chanté « L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Il est un guerrier. Notre Dieu est un guerrier qui a fait ces choses. » Et donc, ils ont reconnu donc, la guerre de Dieu. Dieu lutte sans entre ses ennemis. Et donc, ça nous amène à la guerre de Dieu. Que Dieu est un guerrier, il lutte contre les ténèbres. Nous allons parler beaucoup des ténèbres. Et quand nous parlons des ténèbres, nous parlons donc de la rébellion de Satan et des forces surnaturelles de méchanceté. Mais nous parlons aussi de notre péché et de nous et de notre monde, qui est aussi un monde qui s'est révolté contre Dieu. Dieu lutte contre les ténèbres. Et Dieu a deux objectifs dans sa guerre. En quelque sorte, c'est très simple. Il a deux objectifs qu'il va accomplir. Et ce sont les objectifs qu'il est en train d'accomplir à travers l'histoire de notre monde. Premier objectif, il va réduire en néant cette rébellion. Il va vaincre Satan totalement et les forces des ténèbres et le monde pécheur et toutes les forces de mal. L'objectif de Dieu est de les détruire tous, de les réduire en néant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il vise dans sa guerre, c'est de racheter un peuple pour sa gloire. Et c'est pour ça que nous sommes ici, parce que nous sommes ce peuple qu'il a racheté pour sa gloire. Son objectif dans la guerre, c'est de racheter un peuple pour sa gloire. L'humanité a été ruinée par le péché. Maintenant, de cette ruine de l'humanité, Dieu est en train de racheter, de sauver, de délivrer un peuple pour sa gloire. Et donc, de pardonner le péché, de transformer leur cœur et de leur donner l'espérance de la gloire. Le point culminant de la guerre de Dieu, c'est la venue de Jésus. Maintenant, cette guerre continue tout le long de l'histoire. On peut voir l'histoire de plusieurs façons, et la Bible nous montre le vrai sens de l'histoire. Mais en partie, on peut voir l'histoire du monde comme une histoire du conflit de Dieu, de la guerre de Dieu, pour atteindre ses objectifs. Dieu est en train de vaincre ses ennemis et de racheter son peuple. Il fait ça maintenant, à chaque instant, pendant chaque période de l'histoire. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vaincre les ennemis et de racheter son peuple. Quand Jésus est venu, il est venu prêcher le royaume de Dieu. Je crois que vous savez ça. Que le grand thème de son message, et c'est répété beaucoup de fois, surtout en Matthieu, Marc et Luc, il est venu prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu veut dire précisément ceci, qu'en Jésus, Dieu est venu détruire ses ennemis et racheter son peuple. Jésus est venu pour juger et pour sauver. Et ça, c'est toujours l'objectif de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire dans cette guerre spirituelle dont nous passons. Maintenant, évidemment, très important dans cette guerre spirituelle, je vais mettre ma montre devant moi parce que nous sommes un peu pressés pour le temps. Donc, dans cette guerre spirituelle, Dieu lutte contre Satan. Et nous devons parler un peu de Satan. Il y a une sorte de royaume des ténèbres. Maintenant, quand nous parlons de royaume, je ne crois pas que nous devons parler d'un royaume qui est tellement bien organisé, avec des structures, vous savez, des ministères de ceci et ministères de cela, et les gens responsables de ceci et cela, les coordinateurs. Je crois que c'est un domaine fracturé, chaotique, violent, mauvais. Mais il y a quand même un roi, un chef, que la Bible identifie comme Satan. Et il y a une définition en Apocalypse 12, 9 et 22. Quand on parle de l'ancien, quand on parle du serpent, on parle en fait du dragon. Et on appelle Satan un dragon. Et puis on dit, on déclare l'identité de ce dragon. On dit qu'il est cet ancien serpent, appelé le diable, ou Satan, qui égare le monde entier. C'est Satan qui égare le monde entier. Dieu l'a créé comme il a créé toutes choses. Il est une créature. Je dirais, il est une créature comme nous. Il est comme nous dans le sens qu'il est créé comme nous sommes créés. Il n'est pas comme nous parce qu'il est différent de nous dans d'autres sens. Mais il est créé tout comme nous avons été créés. Et donc, il est une partie de la création qui appartient à Dieu, qui est soumise à la souveraineté de Dieu, qui ne peut jamais frustrer la volonté de Dieu. Il est créé par Dieu. Il a été créé bon nécessairement parce que Dieu a créé toutes choses bonnes. Tu es incapable de créer ce qui est mauvais. Dieu a créé toutes choses bonnes. Il a été créé bon, mais il s'est révolté. D'une manière ou d'une autre, et ici il y a un élément de mystère, mais d'une manière ou d'une autre, il s'est révolté contre Dieu. Il s'est corrompu intérieurement. Il a fait ça lui-même, sans quelque chose de l'extérieur qui l'a poussé. Il n'a pas été tenté comme Ève a été tentée. Lui-même, il s'est corrompu. C'est seulement ça que nous pouvons dire. L'apôtre Paul suggère que c'est l'orgueil, et il y a peut-être d'autres références dans la Bible qui suggèrent la même chose. Mais ce que nous savons, c'est que maintenant, il s'est révolté, et donc, au lieu céleste, il y a la guerre. Il y a la guerre spirituelle. Satan cherche à lutter contre Dieu, à déshonorer Dieu, si possible à déplacer Dieu de son trône, de sa place d'autorité dans le cosmos que Dieu a créé. Donc il y a le début de la guerre spirituelle dans les lieux célestes. Satan est un esprit immatériel. Hein? Il n'a pas de corps comme nous avons des corps. C'est un esprit, il est invisible. Mais il a des attributs de personnalité. C'est-à-dire, il a l'intelligence. Il peut penser, réfléchir, formuler des plans, des dessins. Il a la volonté. Il peut vouloir certains objectifs. Il peut désirer certaines choses et les viser, les chercher. Il a la responsabilité morale. Il connaît la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il est responsable devant Dieu et finalement, il sera décisivement jugé. Il est conscient de soi. Il sait ce qu'il fait, tout comme nous sommes conscients de nous-mêmes. Quand je fais quelque chose qui est mauvais, je sais que je l'ai fait. Je me condamne, ma conscience me condamne. Satan aussi est conscient de lui-même, conscient de son existence et de ses désirs et intentions. Et il peut parler. Il a la parole. Il peut parler, il peut communiquer. Et donc, comme on dit en Genèse, il peut aussi tenter. Il est puissant. Il œuvre partout dans le monde, on peut dire il voyage dans le monde, sur le monde, rapidement aussi, voici ce qui se passe dans notre monde. Et il a une grande connaissance. Mais il est infiniment inférieur par rapport à Dieu. Il est une créature. Il n'a pas les attributs de divinité. Il n'est pas tout puissant. Il ne connaît pas tout. Il n'est pas partout. Il est quelque part, mais pas partout. Et donc, il n'a pas les attributs de Dieu. La Bible dit de Dieu qu'il a la vie en lui-même. Dieu lui-même est la source de la vie de Dieu lui-même. Il n'a pas besoin d'une vie qui vient d'ailleurs. Mais Satan dépend de l'existence que Dieu lui accorde. Il dépend de Dieu, tout comme nous dépendons de Dieu, pour son existence d'un moment à l'autre. Et Dieu peut même agir à travers les mauvaises actions de Satan. Vous tous, vous connaissez ça, parce que vous savez que Satan avait une main dans la crucifixion de Jésus. C'est Satan qui a inspiré Judas à trahir Jésus, n'est-ce pas? Et donc Satan a joué un rôle dans la crucifixion de Jésus. Mais Dieu a utilisé la crucifixion de Jésus pour nous sauver. Et dont la crucifixion a été effectuée par Satan, par des hommes aussi de mauvaise volonté, les hommes déchus, les hommes méchants, mais Dieu a accompli son beau dessein, son salut, par lequel nous sommes rachetés, à travers les mauvaises actions des hommes, des femmes de Satan. C'est la même chose dans l'Ancien Testament, quand Joseph a été trahi par ses frères. C'était une action horrible, trahir votre frère. Vendre votre frère comme esclave. Mais les frères de Joseph ont fait cela. Mais Joseph a reconnu que la main de Dieu était dans cela. Pour sauver ces mêmes frères qui l'ont trahi. Et le père, Jacob, et leurs enfants, et ainsi de suite. Même le pays de l'Égypte, qui agit pour sauver à travers la méchanceté des frères de Joseph. Et donc Dieu agit même à travers la méchanceté de Satan. Satan n'est pas le seul être surnaturel qui s'est révolté, et donc nous trouvons des références dans la Bible aux anges de Satan. Le mot ange veut dire messager, donc ce sont aussi comme les anges de Dieu, mais ce sont des anges déchus aussi révoltés, des démons. Paul emploie un langage où il parle des autorités, des dominations, des trônes, des dignités, des puissances, et ainsi de suite. Mais tous ces mots font référence plus ou moins à la même chose. Ce sont des êtres spirituels révoltés contre Dieu. Nous ne connaissons pas vraiment la différence entre un démon, un esprit impur, une autorité, un ange déchu. Dieu nous a pas confié toutes les petites différences entre ces noms. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a quand même un domaine surnaturel des ténèbres. Maintenant, nous passons à Adam. Nous connaissons qui Adam était. Il est le premier homme avec son épouse. Ève, c'est le premier couple. Mais Adam est plus que seulement le premier homme. Adam est le chef et le représentant de toute notre race humaine. Il nous représente. En quelque sorte, il est nous. Et ses actions sont, dans ce sens, nos actions. Et donc, en tant qu'homme, en tant que chef de l'humanité et représentant de l'humanité, quand Adam obéit à Dieu, ça s'est compté comme notre obéissance. Quand Adam désobéit à Dieu, ça s'est compté comme notre désobéissance. Et Dieu, n'est-ce pas, il a donné à Adam un grand commandement. Tu n'as pas donné beaucoup de commandements à Adam. Il lui a donné sa tâche, donc de s'occuper du jardin, de remplir le monde et d'assujettir le monde, et ainsi de suite. Mais un commandement surtout concernant un arbre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le contexte du narratif biblique, ce commandement est d'une importance capitale. C'est absolument important pour tout ce que nous expérimentons maintenant, pour tout ce qui va suivre. Le but du commandement n'est pas de limiter Adam. Ce n'est pas un commandement qui provient donc d'un esprit de jalousie de Dieu. Il veut priver Adam de certaines choses. C'est plutôt un avertissement qui vient de l'amour de Dieu. Dieu donne ses commandements dans son amour, c'est pour exprimer son amour envers Adam et Ève. Parce que ce que Dieu communique à travers ce commandement, c'est ceci. Que pour Adam, il y a un grand danger dans sa vie. Il habite là dans le jardin d'Éden, c'est un monde parfait, c'est un jardin parfait. Et donc tout est pour Adam. C'est un environnement tout à fait bon et favorable pour l'épanouissement d'Adam, d'Ève, de leurs descendants, des enfants, quand il y aura d'enfants. Mais Dieu dit un danger. Le danger pour Adam, c'est s'il s'égare de Dieu. Parce que toutes les bénédictions proviennent de Dieu. Tout ce qu'il a vient de Dieu. Sa vie vient de Dieu. Parce que Dieu est l'auteur de vie. Et la vie d'Adam va dépendre toujours de Dieu. Le bonheur d'Adam, la joie d'Adam, la félicité d'Adam et de son épouse. Et donc Dieu dit à Adam, cet arbre représente pour lui l'obéissance ou la désobéissance. Pour manger le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, veut dire qu'Adam veut lui-même décider ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui, pour son épouse, et pour leur postérité. Il va prendre cette autorité de Dieu entre ses propres mains et il va déterminer ce que c'est la bonne vie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui conduit une bonne conduite, ce qui comprend une mauvaise conduite, et ainsi de suite. Et donc, l'interdiction du fruit de l'arbre n'était pas pour faire du mal à Adam, c'était pour lui faire du bien. C'était pour le protéger. ne faites pas ceci. Vous mangez de tout le fruit de tous les autres arbres du jardin. Ça, c'est la générosité de Dieu. Tous ces fruits, beaucoup d'arbres, beaucoup de différentes sortes de fruits. Mais de ces fruits, tu n'en mangeras pas. Parce que si tu manges ça, ça veut dire que vous voulez vous-même prendre charge de votre vie, suivre votre propre voie, sans rendre compte de Dieu. Et donc, ce chemin va vous amener à la mort. Et donc, c'est ça le commandement, et c'est ça le danger. Et donc, quand Adam va obéir, il ne mange pas. Donc, il va garder sa vie et la vie de sa postérité. Mais quand il mange, parce qu'il est le chef et le représentant de la race humaine, donc c'est comme si nous avons mangé en lui. Et donc notre chute est entraînée par sa désobéissance, parce que sa désobéissance est notre désobéissance. Sa condamnation, c'est notre condamnation. Sa mort, c'est notre mort. Donc Satan entre dans le jardin d'Éden pour entraîner l'homme et la femme dans sa propre rébellion. Satan veut que le monde physique, ce monde, cette terre sur laquelle nous vivons, il veut que ce monde aussi soit impliqué dans la rébellion. Et donc il entre dans le monde pour tenter le couple, pour qu'il participe dans cette rébellion. Et nous avons la tentation d'Ève. Maintenant, la tentation d'Ève est très importante dans la Bible. C'est pour ça que nous l'avons lu, je crois, ce matin, pour que nous puissions nous rappeler de ce qui s'est passé quand Ève a été tentée. Il y a deux choses à dire d'abord. Première chose, c'est que c'est une occasion absolument unique. Parce que ici, c'est le grand test, la grande épreuve de l'humanité tout entière. Ça ne peut jamais se répéter comme ça s'est fait dans le texte. Parce qu'ici, c'est le chef, le représentant de la race humaine qui subit la tentation à travers son épouse. Donc, c'est une occasion absolument unique. Quand même, le moyen que Satan a employé pour tenter Ève était un moyen qu'il continue à employer pour nous tenter. Et donc, nous pouvons trouver des vérités dans le texte qui sont pertinent pour chaque personne, pour toujours, à travers l'histoire du monde. Et donc, nous devons faire attention à la manière dont Satan a tenté. Et il y a quatre choses qui sont très significatives ici. D'abord, Satan nie la parole de Dieu. Notez dans le texte, si vous avez vos Bibles ouvertes, d'abord dans le texte, il dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il a déformé, il a tordu le commandement. Dieu n'a pas défendu tous les arbres du jardin. Au contraire, Dieu a permis à l'homme et à la femme de manger de presque tous les arbres dans le jardin, sauf seulement un arbre. C'est un arbre qui est interdit, qui est défendu, mais tout le reste, dans la générosité de Dieu, Dieu leur a permis de manger. Mais Satan tord le commandement pour suggérer un peu que Dieu n'est pas tellement généreux. Il défend les choses. C'est un Dieu qui défend. C'est un Dieu qui interdit. C'est un Dieu qui n'est pas généreux. Qui ne veut pas manifester sa bonté envers le couple. Et puis, quand Ève a répondu, « Non, nous pouvons manger le fruit de tous les arbres, mais pas de cet arbre. » Satan lui répond, « Vous ne mourrez point. » C'est une contradiction de la parole de Dieu. Satan dit, « Dieu a menti. Il ne vous a pas dit la vérité. Ce n'est pas comme ça. » Il a contredit la parole de Dieu. Il a semé un mensonge dans l'intelligence de la créature de l'Ève. Et donc, Ève est confrontée avec une autre parole. Adam et Ève avaient la parole de Dieu. Tu n'en mangeras pas, parce qu'au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Satan dit, non, ce n'est pas comme ça. Il contredit la parole de Dieu. Et il invite l'homme et la femme à soumettre la parole de Dieu à leur propre jugement. Comme si une créature peut évaluer le monde de son Créateur. Et c'est ce qu'il dit. Vous devez réfléchir sur cela. Parce que la vraie réponse, c'est que tu ne mourras pas. Et donc, le serpent pousse Ève à répudier la parole de Dieu et à la juger comme un mensonge. Deuxièmement, il nie la justice de Dieu. Et donc, Dieu dit, si tu manges, tu mourras. Satan dit, non, tu ne mourras pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de conséquences pour le péché. Tu peux pécher sans conséquences, sans jugement, sans condamnation. Et donc, vous pouvez juger pour vous-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. S'il y a des choses que vous voulez faire, que Dieu te dit, bon, ne vous en faites pas, vous pouvez les faire. Parce qu'en fin de temps, il n'y a pas de moralité dans l'univers, il n'y a pas de commandement. Vous êtes libre, vous, homme, femme, vous êtes libre à choisir pour vous-même. Et donc, il a nié la justice de Dieu. On peut se révolter contre la volonté de Dieu sans craindre les conséquences. Troisièmement, Satan a nié la bonté de Dieu. C'est-à-dire, il le dit qu'il y a quelque chose dans ce jardin qui est bon et Dieu veut vous priver. Dieu veut diminuer votre bonheur. Dieu veut frustrer votre épanouissement. Si vous mangez, vous serez comme des dieux. Qui ne veut pas être comme des dieux? Vous pouvez être comme des dieux, mais Dieu ne veut pas que vous soyez ça. Parce qu'il veut seul être le Dieu. Mais vous pouvez être comme lui. Si seulement vous mangez, voilà une bonne chose. Dieu veut vous empêcher d'avoir cette bonne chose. Et donc finalement, Satan suggère que Adam et Ève feraient mieux de se libérer de Dieu. Il serait mieux pour eux de suivre leur propre volonté que de suivre le commandement de Dieu. Et c'est comme la parabole de Jésus, le fils prodigue. Vous savez comment le fils prodigue, comment à un certain moment il dit à son père, je veux quitter la maison, donne-moi ce que j'aurai hérité quand vous serez mort, et je veux quitter la maison pour suivre ma propre voie, pour chercher mon bonheur là où je peux le trouver. Et c'est comme Adam et Ève. Satan tente Adam et Ève quitter la maison de Dieu. Quitter ce Dieu qui vous impose des commandements qui sont lourds et pesants et chercher votre bonheur de votre propre manière. Maintenant, ce commandement manifeste le caractère de Satan. En Jean 8, 44, et c'est encore un verset très important quand nous discutons la guerre spirituelle, Jésus dit ceci concernant Satan. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez comment Jésus, il donne quelque sorte un commentaire sur ces versets en Genèse. Qu'est-ce que Satan fait? Il profère des mensonges. Il a menti à Ève. Et quel est le but de Satan? En mentant, c'est de tuer l'homme et la femme. Parce que Satan sait, tout comme Dieu sait, que le jour où ils mangent, ils vont spirituellement mourir et finalement aussi physiquement mourir. C'est le chemin de la mort. Satan connaît cela. Et donc, il tente parce qu'il veut tuer. Il veut détruire les œuvres de Dieu. C'est ça ce qu'il fait. Il est destructeur. Il veut tuer. Et donc Jésus identifie ces deux choses. Satan ment et Satan tue. Et notez que ces mensonges concernent surtout la personne de Dieu. Ce que Dieu dit n'est pas vrai. Si Dieu dit que vous allez mourir, vous n'allez pas mourir. Dieu n'exerce pas de justice dans ce monde. Et Dieu veut vous priver. Il n'est pas bon. Ne pas penser que la bonté de Dieu, il n'est pas bon. Il veut vous priver. Il a planté dans le cœur d'Ève des mensonges concernant Dieu lui-même. Et la parole de Jésus nous enseigne ceci, que Satan n'est pas seulement qui mentit. Il n'est pas seulement quelqu'un qui dit des mensonges, qui profère des mensonges. Il n'est pas seulement quelqu'un qui tue. C'est ça son caractère. Ce n'est pas qu'il veut mentir de temps à autre. Le mensonge, c'est au fond de son caractère. Quand Jésus dit, quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, du fond de son être. Le mensonge sort. Et quand il tue, Il tue en tant que ce qu'il est. Il est tueur, il est meurtrier, il est destructeur. Il veut détruire la création de Dieu. Et donc, nous voyons que Satan est aussi l'opposé de Dieu. Dieu est la source de vie. Satan tue. Dieu est la source de toute vérité. Satan profère des mensonges. Et donc, c'est ça le caractère de Satan. Et nous pouvons résumer les œuvres de Satan de cette manière. Il y a trois choses. Il tente de pécher. Il cherche à induire les gens dans le péché. C'est ça son intention. Et il utilise toujours le mensonge. Je crois que nous devons savoir que au fond de tout péché ou de toute tentation, il y a un mensonge. Et le mensonge, c'est que si je pêche de cette manière, ça va me faire du bien. Personne ne pêche parce qu'il pense que ça va me faire du mal. On ne pêche pas en disant, si je fais ceci, ça va me faire du mal, donc je vais pêcher. On pense que ça va me faire du bien. C'est Satan qui propage ce mensonge. Ça va me faire du mal, du bien. Donc, si c'est adultère, si c'est vol, si c'est haine, si c'est violence, ça va me faire du mal. Ça sera à mon avantage de faire ceci. Même si c'est en quelque sorte condamné, les sociétés ne l'apprécient pas, mais ça va me faire du mal. Il y a toujours le mensonge dans la tentation. Et quand nous cédons à la tentation, ce n'est pas seulement mauvais, c'est aussi fou. Parce que la péché, c'est la folie. Parce que ça produit finalement la destruction. Deuxièmement, il accuse le péché. Et donc nous trouvons ça à maintes reprises dans la Bible, surtout Job. Satan accusait Job d'hypocrisie. Dans le livre de Zacharie, le prophète de l'Ancien Testament, Satan a accusé le souverain sacrificateur Josué du péché. Mais surtout dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 12, verset 10, il y a une description de Satan comme l'accusateur de nos frères qui les accuse devant nous, notre Dieu, jour et nuit. Satan s'occupe donc d'accusation. Il accuse du péché. Notez qu'il accuse devant Dieu. Je sais aussi que Satan peut nous accuser dans nos cœurs. Il nous rappelle de nos péchés pour nous décourager. Mais ce que la Bible souligne, c'est qu'il nous accuse devant Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut que Dieu nous condamne. Il veut la destruction de l'humanité et surtout du peuple de Dieu. Et donc, il nous accuse constamment, nuit et jour, devant Dieu. Alors, il tente de pécher. Et quand nous péchons, il nous accuse du péché. Et ce qu'il cherche, et c'est la troisième chose, il cherche à nous tuer parce qu'il veut détruire ce que Dieu a créé. Il est l'opposé de Dieu. Donc, nous avançons un peu rapidement maintenant pour arriver à la fin. Les conséquences du péché et de la chute. Nous parlons de la chute ici, de l'origine, mais nous subissons ces conséquences jusqu'à nos jours. Notez que Adam et Ève ont péché intentionnellement. Satan ne les a pas fait pécher. Ils ont péché parce qu'ils ont voulu pécher. Nous ne pouvons jamais dire « Satan m'a fait pécher ». Satan peut les tenter, il les a tentés avec une mauvaise intention. Mais Satan ne pouvait pas les faire pécher. Et donc il emploie les ruses, les mensonges et ainsi de suite pour les induire dans le péché. Mais finalement, Ève et Adam étaient face à la parole de Dieu d'un côté et à la parole du serpent de l'autre côté, et ils ont choisi. Et donc Dieu les appelle. Et avec le serpent, Dieu prononce des jugements et nous voyons des conséquences. Première conséquence, c'est la conséquence de la séparation d'avec Dieu. La communion de l'homme et la femme a été rompue, brisée par leur péché. Ils sont séparés de Dieu. Dans les textes que nous avons lus, vous voyez ça quand eux-mêmes, ils se sont cachés de la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas faire face à Dieu. Ils ne voulaient pas être dans la présence de Dieu. Et puis plus tard dans le texte, Dieu les expulse du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, Genèse 2, 3, ça représente une sorte de temple, là où l'homme et la femme puissent puisse jouir de la présence de Dieu, expérimenter la communion avec lui. Mais maintenant, ils sont expulsés du jardin. Et donc, leur communion avec Dieu est rompue. Et c'est catastrophique. Parce que nous sommes créés pour avoir communion avec Dieu. Notre épanouissement, notre joie, notre humanité même dépendent de la communion avec Dieu. Et maintenant, cette communion est brisée. Il y a cependant, deuxièmement, une ruine intérieure. L'homme et la femme ont survécu pour le moment, mais ils sont diminués par ce qu'ils ont fait. Ils ont été créés à l'image de Dieu, unique dans la création. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est beau et merveilleux. Et cette image continue, mais maintenant, c'est brisé, c'est violé, c'est fracturé. Ce n'est pas ce que c'était, c'est souillé, c'est corrompu. Et donc, il reste humain, mais avec une humanité qui est gravement diminuée, défigurée par leur corruption et par la dépravation que tout cela a apporté. Ils sont soumis à la colère de Dieu. Ils ont violé le commandement de Dieu. Ils ont traité l'Éternel comme s'il est un rien. Et donc, ils sont soumis au jugement de Dieu. Et c'est le Dieu en qui seuls ils peuvent trouver la paix et la joie, et ainsi de suite. Il y a le conflit humain. Nous voyons ça tout de suite dans les relations entre hommes et femmes. Même quand Dieu les appelle, et Dieu dit à l'homme, « Est-ce que tu as mangé ?» L'homme, immédiatement, il rejette la responsabilité sur la femme. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Même il blâme Dieu. La femme que tu m'as donnée, qui a mangé, qui m'a donné à manger, et j'ai mangé. Mais il y a la division. Dans le jugement de Dieu, il y a cette division. Et donc, l'homme va, en quelque sorte, contrôler son épouse avec dureté et brutalité. Et l'épouse va réagir. Il n'y a pas de temps pour faire un peu l'exégèse des versets, mais c'est ça ce qu'on voit dans les versets suivants. Et puis ça va se répandre à toute la race humaine. Nous sommes une race violente. Dieu nous a prié pour la fraternité, la communauté, l'amour les uns avec les autres. Mais à cause du péché, il y a les conflits. Et on voit ça partout dans le monde et à tous les niveaux. On voit ça dans les guerres qui s'éclatent entre les pays, entre les différents groupes ethniques. On voit ça dans les familles, dans les conflits entre hommes et femmes. On voit ça dans les voisinages, avec les difficultés entre les voisins. On voit ça entre les enfants, quand ils ne peuvent pas jouer ensemble dans la paix. On voit ça à tous les niveaux. Nous sommes devenus une race violente et ça se multiplie dans notre postérité. Il y a le désordre naturel aussi. Notez les mots de Dieu à Adam. Le sol sera maudit à cause de toi. Notez ça, à cause de toi. C'est toi, Adam, qui a produit cette conséquence. Le sol est maudit. La terre sur laquelle vous allez marcher, c'est maudit. Le monde dans lequel vous vivez, c'est maudit. Et ça veut dire immédiatement qu'Adam doit travailler durement pour manger. On doit supposer que quand les créations étaient créées au commencement, c'était bon, le sol allait facilement rendre les fruits pour qu'on puisse les manger. Mais maintenant, c'est dur, c'est par la sueur qu'Adam va manger. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que les conséquences s'étendent aussi à d'autres domaines de la vie. Et donc, les inondations, les tremblements de terre, les volcans, les maladies, les accidents, toutes ces choses proviennent de l'entrée du péché dans le monde. La souffrance est dans le monde parce que le péché est dans le monde. Nous sommes une race qui souffre parce que nous sommes une race déchue. C'est la conséquence du péché. Il faut dire, la souffrance n'est pas la conséquence, disons, de sorcellerie, de mauvais esprit, de malédiction. Nous souffrons parce que nous sommes une race déchue. C'est la conséquence du péché. Nous allons, bien sûr, rentrer à ça plus tard. Et finalement, il y a la servitude spirituelle. Adam et Ève et leur postérité sont soumis à la puissance du diable. Ils ont obéi au diable et maintenant le diable va exercer une tyrannie sur eux. Et donc il va les opprimer. Et Jésus, alors, quand il parle du diable, trois fois, il l'appelle le prince de ce monde. Paul l'appelle le dieu de ce siècle. Jean dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça ne veut pas dire que Dieu ne gouverne pas ce monde. Dieu gouverne ce monde toujours, comme nous avons dit au commencement. Mais Satan saisit l'occasion de notre péché pour nous dominer et pour nous tyranniser. Et donc Paul dit aux Éphésiens qu'avant qu'ils ne soient devenus chrétiens, ils marchaient selon le train de ce monde, selon le prince, la puissance de l'air, ça c'est Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous sommes spirituellement aveuglés par Satan et tyrannisés par Satan. Mais finalement, on arrive maintenant à la fin du chapitre 3 de Genèse. Il y a la grâce. En chapitre 3 de Genèse, il y a la grâce. Nous voyons la grâce plusieurs fois, mais une fois surtout, nous allons souligner. C'est au chapitre 3, verset 15. Donc, si vous avez des Bibles, il serait bon de voir ça, de lire ça ensemble avec moi. Dieu cite ces mots au serpent. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On a dit que c'est ici la première annonce de l'Évangile. La première fois que l'Évangile est proclamé, c'est Dieu qui la proclame. Il donne cette promesse d'un libérateur, d'un sauveur, de quelqu'un qui va écraser la tête du serpent, la tête de Satan, qui va libérer ceux qui sont réduits en esclavage à Satan. Et donc, notez bien ce que Dieu dit dans ceci. Il y a trois choses que je veux souligner, qui sont très importantes. D'abord, je parle d'une division humaine fondamentale. Donc, Dieu va mettre l'inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et ce que ça veut dire, c'est que Dieu est en train de, en quelque sorte, de sauver Ève déjà. Il agit pour mettre fin à la complicité entre le serpent et Ève, parce que Ève est entrée dans la rébellion du serpent. Le serpent l'a tentée et elle a dit oui, elle a mangé, elle a donné à son mari, il a mangé, il est complice aussi avec le serpent. Et Dieu rompt cette complicité. Il dit non, la femme ne sera pas pour Satan. Il réclame la femme, il délivre, il libère la femme, il la délivre de l'emprise du serpent. Et donc, ce que Dieu dit, c'est que ça sera vrai pour la femme, mais aussi pour sa postérité. Et donc, il y aura une postérité, la descendance de la femme, il y aura une postérité, la descendance du serpent. Et il y aura une inimitié entre la femme et sa postérité, et le serpent et sa postérité. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura deux branches de l'humanité. Une branche, c'est la postérité de la femme, et c'est la branche qui va chercher la face de l'Éternel, qui va se repentir, qui va mettre leur foi en Dieu, et finalement dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est promis ici par Dieu. Mais d'autre part, il y a ceux qui vont suivre dans le chemin du serpent, qui vont continuer à accepter ses mensonges, qui vont participer dans sa violence et ses actes de meurtre, qui vont eux-mêmes juger pour eux-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il y aura donc guerre spirituelle entre les ténèbres et la lumière. Il y aura les enfants de la femme, les enfants de lumière, les enfants du serpent, les enfants des ténèbres. Et il y aura guerre spirituelle entre les deux. C'est le commencement de la guerre spirituelle dans notre monde. Ça a commencé dans les lieux célestes. Maintenant, c'est dans notre monde. Mais puis, Dieu donne la promesse d'un libérateur. Et donc, cette inimitié va arriver à son point critique, son point culminant, quand un libérateur vient. Et ce libérateur va écraser la tête du serpent. Et à ce moment-là, le pouvoir du serpent sera définitivement vaincu par le libérateur. Maintenant, c'est une promesse. C'est une promesse pour l'avenir. Quelqu'un qui va venir de la postérité de la femme. Et dans la postérité de la femme, c'est tout un peuple. Mais il y aura encore un représentant. Un deuxième Adam. Et tout comme le premier Adam a été vaincu par le serpent, le deuxième Adam va vaincre le serpent. Mais c'est pour l'avenir. Mais Dieu donne cette promesse à l'humanité, à son peuple. Le jour va venir quand il y aura un libérateur. Et dont la venue de Jésus est déjà annoncée dans le livre de Genèse. Mais notez le point final ici. Le libérateur va libérer seulement en souffrant. Et quand Satan va écraser ou blesser son talon. Le salut vient à un prix. Et c'est un grand prix. Et Dieu annonce ça aussi. Et ce que Dieu annonce, on annonce ça, c'est évidemment la crucifixion du Seigneur Jésus. Jésus va venir pour nous libérer. Mais chose étonnante, il va nous libérer en souffrant lui-même. Notre libération va coûter beaucoup. Mais aussi notez que ce que Dieu dit ici parle de la postérité de la femme en général. Parce que ceux qui cherchent à rester fidèles, ceux qui ne sont pas une partie de la postérité du serpent, ils vont aussi expérimenter des souffrances. Et nous voyons ça immédiatement, Genèse 4, quand Caïn tue son frère Adam. Et c'est la première manifestation de ce principe. Voilà quelqu'un descendu de la femme spirituellement, Abel, qui a été tué par quelqu'un descendu du serpent spirituellement, qui est Caïn. Et donc l'apôtre Jean, en Jean 3, 12, il pose la question, pourquoi est-ce que Caïn a fait ça? Il a dit ceci, il était du malin. Il était du malin. Il a tué son frère. Il appartenait à Satan. Il était de la postérité de Satan. Et l'Apocalypse, Apocalypse 12, parle de nous, l'Église d'aujourd'hui. Il parle de nous et du fait que le dragon, c'est-à-dire le serpent, fait la guerre au reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bon, nous allons nous arrêter là, mais nous arrêtons avec la promesse. Et cet après-midi, nous allons parler de la réalisation de la promesse avec la venue de Jésus. Ok, je vais prier pour terminer ça. Prions le Seigneur. Bon. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions parce que cette parole nous éclaircit et nous voudrions que tu nous aides à bien saisir ce qui a été dit ce matin et ce que ta parole nous dit. Notre Père, nous avons beaucoup vu. C'est beaucoup à saisir rapidement. Et nous voudrions que tu nous aides et que ton esprit agisse dans nos cœurs à travers ta parole pour nous aider à comprendre la nature de cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes impliqués et à savoir comment bien combattre d'une manière qui te plaît et qui te glorifie. Donc, merci pour ce temps. Merci pour cette conférence. Nous te prions de continuer avec nous pour le reste de cette journée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.